Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC. Excellent choix. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le sud de la France en proie aux flammes donc toujours ce matin avec trois gros incendies en cours en ce moment dans l'Aude, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 hectares de végétation ont déjà brûlé. On va faire un point complet. Voilà dans quel contexte Sébastien Lecornu se rend à Marseille aujourd'hui pour préparer la France à la troisième canicule déjà redoutée. Vous allez l'entendre dans les hôpitaux. Et puis tu triches ou tu pointes? On va vous raconter ce matin ce séisme qui secoue le monde de la pétanque, des soupçons de match truqué, il y a des stars de ce sport qui ont été interpellés.
Les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans le sud de la France.
Oui, plusieurs incendies font rage depuis hier après-midi. Les autorités avaient prévenu avec, vous le savez, 6 départements en alerte maximale pour les risques de départ de feu. Alors le plus important, il a pris dans ce qu'on appelle le Minervois, cette région à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Au moins 900 hectares de pinèdes ont déjà brûlé, des maisons évacuées, une fumée qui se voit loin à la ronde. On reçoit vos photos ce matin sur le WhatsApp RMC. Vous êtes sur place, envoyé spécial pour RMC, Philippine Boulet. L'info ce matin, c'est que le feu n'est toujours pas fixé. Alors, on entend le vent, on n'entend pas Philippine Boulet. Philippine, qui n'est pas avec nous ce matin, donc pour cet incendie dans le Minervois, qui a déjà brûlé 900 hectares de végétation, de pinèdes plus précisément. Un des feux qui touche en ce moment le sud de la France, alors ça brûle aussi dans les Bouches-du-Rhône, avec là deux gros incendies dans les Bouches-du-Rhône depuis hier. Il y en a un feu à Rognac, 50 hectares qui ont brûlé. Ce feu est fixé ce matin, mais on sent la fumée jusqu'à Marseille. Ne soyez pas surpris ce matin si vous vous réveillez. Et un feu aussi à Lançon de Provence, 275 hectares qui ont brûlé. Ce feu s'est réactivé ce matin, attisé par le vent et la sécheresse de la végétation, qui évidemment est un terreau très favorable pour ces feux. C'est ce que nous dit ce matin, on lui a téléphoné, Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Des feux qui commencent extrêmement tôt dans la saison, avec les effets de la canicule. C'est très difficile, puisque ce n'est pas uniquement le pourtour méditerranéen, c'est aussi des départements comme Lyon qui ont été touchés hier, la Seine-et-Marne, la Nièvre, la Marne, la Loire. C'est très complexe parce qu'on est sur à chaque fois des appels de renfort de zone d'une autre zone. Il y a des sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui en transit du nord de la France vers le sud de la France. On est dans des feux d'espace qui viennent jouer avec l'interface entre le milieu urbain et le milieu forestier, ce qui peut rendre difficile la situation parce qu'on a la nécessité absolue de pouvoir protéger les personnes et protéger des biens.
Et c'est ce qui s'est passé hier dans le Var où un feu a pris au beau milieu de la ville de Fréjus, provoquant l'évacuation de plus de 2000 personnes et quand même de 6 campings, donc en pleine période estivale. Alors c'est d'ailleurs depuis le sud de la France et depuis Marseille précisément que le Premier ministre Sébastien Lecornu va diriger aujourd'hui une nouvelle cellule de crise interministérielle consacrée aux fortes chaleurs et à la troisième canicule là, qui arrive dès ce week-end, nous dit déjà Météo France. Et Louis Salé, vous nous dites qu'elle est redoutée cette canicule dans les hôpitaux, sous tension déjà après les fortes chaleurs du mois dernier.
La semaine dernière, dans le service de Cynthia, infirmière à l'hôpital de Chartres, il n'y avait que 3 ventilateurs pour 29 patients.
On les reprenait pour les déplacer dans d'autres chambres quand on estimait, entre guillemets, que c'était assez pour le patient. C'est quand même inhumain, quoi. On se demande pourquoi ce patient-là plutôt que l'autre. C'est choquant et c'est des choix qui sont très compliqués à supporter, forcément.
Des climatiseurs mobiles ont depuis été commandés, mais une nouvelle canicule risque de fragiliser les équipes, craint Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris.
Nous, on a aussi besoin de récupérer nos forces. Alors, une semaine, ça me paraît trop court. Le personnel est fatigué, extrêmement stressé, parce qu'on a vécu quand même beaucoup de décès, d'arrêts cardiaques.
Les hôpitaux peuvent, si besoin, faire appel à des étudiants, des soignants intérimaires, mais pas question de rappeler le personnel en vacances. Didier Guidoni dirige l'hôpital de Vierzon.
Les congés d'été pour les soignants, on ne les remet pas en cause. Il faut qu'ils puissent en profiter et on est vigilants.
Il espère aussi que le bâtiment tiendra le choc d'une nouvelle vague de chaleur. La semaine dernière, la climatisation des blocs opératoires de son hôpital est tombé en panne.
Alors, le dérèglement climatique va-t-il devenir, dans ce contexte, le sujet de la campagne présidentielle à venir? Ce sera en tout cas la thématique abordée dans la matinée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, qui propose un nouveau découpage des régions. Pour en finir avec la carte de 2015, les Insoumis, à Lucas Laubert, les Insoumis veulent créer ce qu'ils appellent des éco-régions, en fonction cette fois des fleuves et des cours d'eau.
Oui, alors les contours exacts de ces éco-régions sont encore à l'étude, mais imaginez par exemple Marseille dans une grande région du sud-est avec Lyon et le Jura, la Bretagne réunie avec les Pays de la Loire jusqu'au Massif central, des régions pensées autour des bassins versants des fleuves pour plus de cohérence écologique, explique Claire Lejeune, députée insoumise de l'Essonne qui travaille sur ce projet.
Une agence de l'eau aujourd'hui, elle va investir à un endroit donné pour dépolluer, etc. Si vous avez en parallèle un préfet de région qui décide de valider l'installation d'une usine en amont du cours d'eau, vous voyez bien que ça va contrecarrer complètement les efforts faits pour dépolluer et assainir l'eau.
Une région dessinée autour des bassins versants des fleuves permettrait donc, selon les insoumis, de simplifier les politiques écologiques. Ces éco-régions ne s'occuperaient que d'écologie et tous leurs moyens financiers seraient dirigés vers cet objectif. Pour Grégoire Delastérie, président délégué à la région Île-de-France, les régions ont d'autres missions qu'il ne faut pas oublier.
Les régions, elles parlent de mobilité, elles parlent de développement économique. Dans le projet de LFI, les régions ne s'occupent plus que de transition et laissent tomber tout le reste. Ça marche pas. C'est pas cohérent.
Pour l'élu, les régions agissent déjà pour la transition écologique, elles manquent simplement de moyens.
Il faut remettre de l'éthique dans le sport. Voilà donc la réaction ce matin sur RMC de la ministre des Sports, Marina Ferrari, après le coup de tonnerre dans le petit milieu de la pétanque, qui est donc secoué par les soupçons de matchs truqués. 9 personnes interpellées en début de semaine dans le Var et en Gironde. Parmi ces 9 personnes figurent des stars du milieu. Dylan Rocher, Henri Lacroix, ceux qui jouent à la pétanque connaissent forcément ces noms. C'est un tournoi il y a quelques mois qui intrigue, hein, Constance Bostoen.
Le 4 septembre dernier, pendant les Masters de pétanque, l'une des compétitions les plus relevées au monde, l'équipe ultra favorite s'incline en quart de finale, 13-4, contre une autre bien moins expérimentée. La défaite est inattendue, elle fait le bonheur de quelques parieurs qui avaient misé gros, trop gros pour ce type de compétition. L'autorité nationale des jeux est aussitôt alertée et découvre que ces parieurs sont en fait des proches des boulistes qui viennent de perdre le match. Grâce à ces mises, ils auraient dû empocher 60 000 euros. Mais une enquête est ouverte et ce mardi matin, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 4 joueurs membres de l'équipe de France. Toutes ont été entendues et sont soupçonnées d'escroquerie en bande organisée et corruption active et passive.
On est à 2 jours du départ du Tour de France à Barcelone. Vous le savez, cette année, il y aura la traditionnelle présentation des 23 équipes en fin de journée. On verra qui gagne à l'applaudimètre, si c'est Paul Sexas, par exemple. C'est une première depuis 2007. Tiens, la France ne sera pas le pays le plus représenté dans le peloton. Pour une fois, on est battu par la Belgique. Il y aura 30 coureurs français et 31 coureurs belges.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bah, puisqu'on en parle, la Belgique, tiens, qualifiée dans la douleur cette nuit pour les huitièmes de finale. 3-2 contre le Sénégal avec un but au bout de la prolongation. C'était chaud aussi pour l'Angleterre qui a sorti la République démocratique du Congo 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane dans le dernier quart d'heure. Et c'était plus tranquille, hein, cette nuit pour les États-Unis qui ont sorti la Bosnie 2-0 dans une belle ambiance que vous entendez. Wow. Ça, c'était ici dans une fan zone à Washington. Les Américains donc, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de leur Coupe du Monde. Les trois pays hôtes hein, sont qualifiés d'ailleurs. Le programme de la soirée de la nuit prochaine est génial. On va revoir l'Espagne à 21h sur RMC contre l'Autriche. Les Espagnols parmi les favoris qui n'impressionnent personne hein, pour l'instant. Le Portugal aussi contre la Croatie, ce sera dans la nuit à 1h du matin. Le duel, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Et ce sera encore une nuit blanche ou alors un réveil très très tôt la nuit prochaine pour les supporters de l'Algérie qui jouera à 5h du matin contre la Suisse.
Match qu'on vous fera vivre en fil rouge, très rouge. Enfin, non, il est à 5h pile. Donc, dans le morning RMC demain matin avec Élise et toute l'équipe, on va vous faire vivre Algérie-Suisse avec évidemment nos équipes puisqu'on est radio officielle de la Coupe du Monde. Je crois que vous commencez à le savoir. On a quand même une quarantaine de personnes envoyées là-bas. On a même envoyé Martin Bourdin à une époque, figurez-vous. Essayez d'expliquer la règle du hors-jeu aux Américains. Moi, je vois plein de vidéos sur Internet. Ils n'ont pas compris, Martin.
Je ne veux pas avoir un très bon accent anglais, je pense.
Merci beaucoup, merci Quentin. Alors, on passe à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour Mathieu.
Le géant du jeu vidéo. Vous avez reconnu, tiens, un petit blind test jeu vidéo. GTA. On était chez Sony. Le géant du jeu vidéo Sony qui l'a annoncé hier, plus aucun jeu vidéo ne sera vendu physiquement à partir de janvier 2028 pour ses consoles.
Oui, hein, Mathieu, et sachez-le, c'est une petite révolution. Et ça m'énerve. Les jeux vidéo, c'est un secteur économique qui pèse 6 milliards d'euros sur le territoire national et 202 milliards à travers le monde. Mais cette décision va tout changer. C'est la fin du support physique, c'est la fin des prêts et des échanges de jeux vidéo sur CD. C'est la fin du marché de l'occasion dans les magasins spécialisés. Et c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, la fin d'un état d'esprit où le physique prédominait, où l'on pouvait conserver nos jeux vidéo et les collectionner comme des livres ou des DVD. Maintenant, faites place au dématérialisé. Il faudra télécharger le jeu.
On fera la chronique sur les DVD un autre jour, parce qu'apparemment il a encore des DVD.
Quel mépris.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision?
Alors Sony déclare s'adapter aux nouveaux profils, aux nouvelles habitudes des gamers. Aujourd'hui, les ventes digitales ont dépassé les ventes physiques. Rien qu'en France, où l'on compte 40 millions de joueurs et 1,6 million de consoles vendues en 2025, près de 70% des ventes de jeux vidéo se font aujourd'hui au format digital, un ratio qui descend à 50% pour les nouveautés. Mais donc, cela aura des conséquences sur le marché de l'occasion. Il est voué à disparaître. De la même manière, les habitants des zones blanches ou zones grises où la connexion Internet est compliquée seront impactés par cette décision.
Ah oui.
Et cela entraînera aussi des frais supplémentaires, des coûts supplémentaires pour les gamers, avec des gros jeux consommateurs de mémoire, comme la prochaine méga production GTA 6. Il faudra augmenter sa capacité de stockage. On est à 650 go en moyenne pour une PS5 et un jeu fait entre 90 et 100 go. Ouais. Donc il faudra acheter de la mémoire, des coûts supplémentaires, plus de l'occasion, plus rien. C'est la fin des jeux vidéo.
Bon, c'est une vraie question, la revente hein, surtout. On a tous grandi en revendant les jeux.
Non, moi, prêter
je
des jeux
bon,
et...
Moi, je ne prête pas, je vends. Les chiffres de l'énergie, on repasse à nos habitudes. Les chiffres de l'énergie, on les commence ce matin, Pierre.
Alors, le samplon 95, 1,93€, il augmente. Le gazole, 1,90€, lui-même aussi, il augmente. Le baril de pétrole, il baisse. 71,08€. Et le gaz, 42,77€ par rapport à 43€ hier.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau. Il est 8h11. Et dans un instant, Arnaud Demange va venir nous faire rire avec l'actualité. Et puis alors, 8h30, le face-à-face, l'invité de Marie Chantresse est l'ancien officier du KGB, Sergueï Girnov. L'Ukraine est-elle en train de reprendre la main dans sa guerre contre la Russie? Les attaques de drones de Kiev qui déstabilisent en tout cas Moscou, on y vient sur RMC et BFM TV. Et puis juste après, le choix de la rédaction. Face aux vagues de chaleur, les Français adaptent leurs vacances. La Normandie et les locations avec piscine ont la cote. Et puis le journal de la Coupe du Monde avec Virginie Fulpin, ça c'est en direct à 8h50. Voilà le programme.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Et bonjour. Tous les jours, Arnaud Demange, il est avec nous.
Bonjour Mathieu.
Salut Arnaud.
Bonjour Élie.
Salut Arnaud.
Bonjour Martin.
Salut Arnaud.
Et Géraldine Demory.
Bonjour.
La météo. Je suis Hola. Très déçu, Géraldine. Vous nous remettez une canicule. Voilà. Ah, j'ai mis des cigales pour que ce soit plus sympa et plus supportable, mais on va souffrir. La canicule, je suis sûr que c'est un coup de com' de François Hollande, en fait. On va bientôt avoir des affiches dans toutes les rues avec sa tête où il y aura marqué « Moi, quand j'étais président, il pleuvait. Voilà. » Hollande 2027. Pour une France qui pleut. Alors ce week-end, il fera 55 degrés à Paris, 62 à Marseille, 74 à Lyon, 111 à Cannes. Hydratez-vous, il faut boire environ 8 litres d'eau par heure. Et la chaleur a des conséquences économiques. Alors la fréquentation des salles de cinéma, par exemple, a bondi de 68%. Aux caisses de ciné, on est tous là. Vous voulez voir quel film ? De Gaulle, c'est long. C'est long, on va dormir au frais.
Il y a même deux épisodes.
Ouais, on peut toute la nuit. Moi, je me sens con, le titre de mon nouveau spectacle, c'est « Beau tout nu ». J'aurais dû l'appeler la salle est climatisée, j'aurais fait un... Ah tiens, tant qu'on parle de grands comédiens français...
Oui.
Ça va le melon.
Ouais. Isabelle Adjani a été condamnée en appel à 10 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale aggravée.
Ouais.
C'est la reine Mago maintenant, en fait.
Oh.
Il va falloir passer à la caisse. J'ai l'impression qu'on va bientôt la voir dans les Tuches 6 ou Camping 22 pour renflouer les caisses. Ce soir, au menu... Des frites, des frites, des frites, j'aime les frites, tout type de frites. Alors, on n'attend pas Patrick pour les frites? Je vais prendre mes billets, je veux voir ça.
Alors mardi, sur notre antenne, le député socialiste Philippe Brun s'est présenté à la présidentielle.
Et oui, au PS, c'est la folie. Et 1, et 2, et 3, et 4... Et 5, et 6, et trop de candidats. On est ridicule, on est ridicule. Bref, Philippe Brun se présente, il devient donc le 232e candidat français au total. Mathieu, présentez-vous à ce train-là, soyez pas timide, tout le monde y va, c'est la mode du moment.
Mais il n'est pas socialiste.
Non mais en général, il y a plein de candidats. Et puis voilà, Philippe Brun, en termes de notoriété, vous le dépassez. Hein. Il y a plus de Français qui vous voient tous les jours que lui. Hein.
C'est une vraie question.
En tout cas, depuis que vous êtes plus sur France Info, il y a plus de Français que... Bon alors, est-ce que ça prend bien la candidature Philippe Brun? Alors j'ai fait une petite revue de presse, je vous propose un jeu. Est-ce que c'est un vrai titre d'article sur la candidature de Philippe Brun? Attention, c'est parti. Un mix entre un dîner de cons et un jour sans fin.
Oui, je l'ai vu.
Oui, non, c'est un vrai titre.
Je l'ai vu, ce titre.
C'est dur. C'est le Parisien. Élysée, deux points. Le ridicule n'a jamais tué personne, hormis la gauche.
Vrai,
c'est un vrai titre.
Ah ouais, ça sera un édito.
Nicolas Dupont-Aignan, 2 points. Enfin, un mec qui fera plus moins que moi. Non, c'est pas vrai. Présidentiel, 2 points. Olivier Faure s'étonne de l'apparition de nouveaux candidats chaque matin.
Oui,
c'est vrai. Oui, c'est un vrai. Oui. Au PS, il y a désormais plus de candidats que de militants.
Oui, oui, oui.
Non,
oui.
C'est un faux.
J'aurais pu l'écrire.
C'est très crédible. Hein.
Non, franchement, à la place de Philippe Brun, j'ouvre la presse ce matin, je fais un démenti, moi. Je dis non, mais c'était pas moi sur RMC. C'était Canteloup avec une perruque et une fausse barbe. Bon, c'est crédible, hein. Personne connaît sa voix. Ni sa tête, d'ailleurs. Mais là, il y a un paquet de candidats. Alors, j'ai découvert aussi l'existence de Lydie Massard. Je vous en ai déjà parlé, Lydie Massard. C'est la candidate de l'Union démocratique bretonne.
Oui, c'est vrai, vous en avez parlé.
Oui. Son programme, c'est donc... Ah, voilà. C'est la Marseillaise au Bignou. Son programme, c'est donc exterminer les Normands, récupérer le Mont-Saint-Michel, organiser des distributions de beurre salé en Palestine et au Soudan pour aider la population. Elle est eurodéputée européenne de gauche et cuisinière dans un lycée professionnel à Pontivy. La dame de la cantine, elle est candidate à la présidentielle. Même elle. Là, pour le coup, face à Trump, elle aura l'autorité nécessaire. Tu vois, la dame de la cantine, ça rigole pas. Tu sors pas de table tant que t'as pas signé l'accord de paix.
Mais j'ai plus envie.
En tout cas, Manu Le Chypre me disait « Moi, je vais voter pour elle. » Une bretonne qui a l'habitude de cuisiner pour 300 personnes, on va bien s'entendre.
On va reparler de cette explosion dans un immeuble à Monaco qui visait un oligarque ukrainien. Le suspect n'a toujours pas été retrouvé.
Oui, alors ce qui explose en général à Monaco, c'est les bouchons de champagne, c'est les liftings, c'est quand un oligarque oublie sa femme mannequin dans sa voiture en plein cagnard. Là, les lèvres et la poitrine explosent. Les forces de l'ordre monégasque sont sur les dents, mais alors... Les forces de l'ordre à Monaco, c'est surtout les carabiniers du prince. Ils sont 124 et c'est principalement une fanfare. En fait, dans tout Monaco, t'as des clarinettistes et des saxophonistes qui débarquent chez les suspects. Bonjour monsieur, fanfare de Monaco, le brigadier tromboniste, d'accord, je vous présente l'adjudant trompettiste taillandier. On est à la recherche d'un suspect. Ouais, je sais, il est là-bas au 29 de la rue. Oh, ok. Les gars, on y va, tous ensemble! Merde, normalement j'ai une musique qui démarre, c'est con! J'avais mis la musique de Bénil, bah ouais,
c'est... Ah, les yeux d'Emily, ça marche!
Ah,
ouais.
Voilà! Voilà, ah, c'est oui, ma musique! Bon, bah du coup, ça flingue ma chute, du coup, je la fais pas, mais. On va sortir sur la musique, c'est plus sympa! Allez, courage pour l'enquête, et à demain!
On va faire le générique de Bénil et tous courir en rond autour du studio. Merci, Arnaud Demange, qu'on retrouve en podcast et en tournée partout en France, à Toulon, hier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Frémin-Merlebach, Épinal ou Gaillac. Un spectacle RMC.
Exactement.
Exactement.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Olivier est en ligne avec nous depuis Lyon. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous. Oui,
vous
oui.
avez réagi à cette info que nous donnait la ministre des Sports ce matin, 90 noyades depuis le 19 juin.
Bah oui, parce que enfin moi ce qui m'embête un peu dans tout ça, c'est que c'est indéniable, faut que les jeunes ils apprennent à nager le plus tôt possible. Mais je veux dire par là, c'est que j'aurais tendance à dire, il faut aussi qu'ils apprennent à anticiper et puis à apprivoiser l'élément eau, parce que moi qui ai pratiqué le triathlon, je peux vous garantir que en piscine, quand vous avez 2 mètres de fond, que vous avez vos lunettes, c'est pas du tout pareil que quand vous êtes en
oui,
lac,
vous dites la baignade dans nos vives en eau naturelle plutôt qu'en piscine.
Peut-être un départ en piscine parce que c'est là qu'on apprend, mais après je veux dire il faut apprivoiser et apprendre à apprivoiser cet élément.
Et c'est là que vous avez raison Olivier, parce que c'est pas tant une question de nage uniquement, mais c'est une question d'obstacles qu'on va croiser, de chute d'un pont, parce qu'on n'a pas analysé le fait qu'il y avait pas la profondeur. Merci Olivier. Non mais vous avez raison, il faut absolument qu'on développe ça. C'est inacceptable qu'on ait 90 morts parce qu'il fait chaud, de noyade, j'entends 90 morts des enfants qui cherchaient tout simplement à se rafraîchir. Des jeunes ou des enfants souvent. Merci Olivier de votre appel au 32-16. Dans un instant sur RMC, BFM TV, l'invité de Marie Chantresse est l'ancien officier du KGB, Sergueï Girnov. La situation, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, évidemment au programme. 8h21.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
6 départements en vigilance rouge incendie ce matin. Un incendie est en cours à Alençon-Provence, près de Marseille. Plus de 320 hectares déjà partis en fumée. 175 pompiers luttent ce matin contre les flammes. L'impressionnant incendie dans l'Hérault et l'Aude a lui été fixé ce matin. 900 hectares ravagés. 350 personnes avaient dû être évacuées hier à Pouzol-Minervois et Mayac. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est à Marseille cet après-midi pour présider une cellule interministérielle de crise sur la canicule. Les derniers départements départements en vigilance orange sont repassés en jaune, chargé des ministres des Sports, Marina Ferrari. En Ukraine, nouvelles attaques de drones cette nuit à Kiev. Au moins 9 personnes sont mortes et des étages entiers d'immeubles ont été détruits. Les dégâts sont considérables, décrit un responsable militaire ukrainien. La France toujours en surpopulation carcérale. Aucune mesure d'envergure nationale n'a été prise, épingle ce matin la contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans un avis au journal officiel, les prisons françaises comptaient près de 89 000 détenus il y a un mois. La Coupe du Monde avec 3 nouvelles équipes qui filent en huitième de finale. Bosnie-Herzégovine 2-0 cette nuit. Qualification aussi de la Belgique contre le Sénégal 3-2. Puis l'Angleterre a vaincu la République démocratique du Congo 2-1. 3 rencontres attendues aujourd'hui. Espagne, Autriche, Portugal, Croatie et Suisse, Algérie à 5h du matin. La météo pour finir, ça sera la journée la plus fraîche de la semaine. Aujourd'hui, on attend jusqu'à 20 à Brest, 24 à Lille, 25 à Paris et quand même jusqu'à 36 à Montpellier.
C'était le rappel des titres. Merci Solène Gardré. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, le face-à-face. Marie Chantrey reçoit Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB et auteur des Auxiliaires du mensonge.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sergueï Girnov.
Bonjour Marie.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les téléspectateurs de BFM vous connaissent bien désormais. Ex-officier supérieur du KGB, expert en relations internationales et auteur récemment des Auxiliaires du mensonge. Trump, Epstein, Poutine, un ex-commandant du KGB décrypte Poutine justement. On a besoin de vous ce matin pour votre connaissance de la Russie, de ses secrets, et comprendre aussi la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine, si d'ailleurs elle est nouvelle. La nuit était redoutée en Ukraine, à Kiev plus particulièrement. D'ailleurs, on l'a appris, Zelensky était en déplacement en Irlande. Il est revenu en urgence dans son pays suite à un briefing de ses services de renseignement. Et donc, cette nuit, à nouveau meurtrière, notamment sur la capitale Kiev, des bombardements entendus, des tirs de missiles, de drones également, bilan provisoire. 9 morts. Et ces images aussi, Sergueï Girnov, ces images de la guerre, de cette population obligée de fuir dans les abris des métros bondés pour tenter de se protéger justement de ces missiles. La vengeance de Poutine est en marche.
La vengeance de Poutine était en marche, et particulièrement cette nuit, parce que Zelensky justement était en Irlande pour la réunion de changement de présidence dans l'Union européenne, et donc en fait c'est l'Irlande qui prenait sa présidence. Zelensky était donc en fait dans ce lieu hautement stratégique et important. Il a eu beaucoup de rencontres, et donc du coup Poutine, à mon avis, il a employé plus de moyens précisément pour ça.
Il a profité, vous dites, de cette occasion peut-être.
C'est une vengeance. C'est pas profiter. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce que vous savez, la Russie a les moyens de varier ses frappes. Et on sait que parfois les nuits c'est une centaine de drones sur les civils en Ukraine. Parfois c'est 700. Parfois c'est jusqu'à 1000. Et donc là c'était une attaque particulièrement importante sur la ville de Kiev, mais aussi sur Kharkiv, aussi sur Dnipro, sur Zaporijia, sur plusieurs autres villes ukrainiennes.
Œil pour œil, dent pour dent. Pardonnez-moi cette expression, mais l'Ukraine, on le sait, on va y revenir, a entamé aussi une forme de campagne de 40 jours de frappe massive et qui fonctionne, puisqu'elle touche des sites stratégiques russes et les conséquences sont en cascade, notamment des pénuries de carburant. Plus il est accoulé, plus Poutine est dangereux. C'est les observateurs qui le disent, certains en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Je le croyais aussi, mais finalement, regardez, avec le temps, moi personnellement, j'ai changé d'avis. Parce que on disait, si l'Ukraine prenait une arme occidentale, d'abord l'artillerie, puis après les missiles, puis après les chars, puis après les avions, puis après les missiles de croisière, etc., à chaque fois, c'est une ligne rouge. Mmh. Et on craignait que Poutine réponde à cette ligne rouge d'une manière assez importante, et en réalité, il s'est rien passé. Et en fait, les Ukrainiens actuellement, côté ukrainien, ont dit on n'a plus peur de toucher la Russie au plus profond de ses capacités.
Et ça se prouve d'ailleurs dans les frappes récentes. Ça va de plus en plus loin, de plus en plus profondément. C'est ce que vous nous dites encore ce matin.
Ça c'est quelque chose. Et aujourd'hui, c'est passé apparemment C'est pas les Ukrainiens qui le disent, ce sont les Russes qui le disent. Donc côté russe, on dit que les Ukrainiens ou les Américains qui ont peut-être essayé le nouveau missile FP9 ukrainien, c'est un missile balistique de production uniquement ukrainienne, et donc il y aurait un missile comme ça qui aurait été abattu dans le ciel de la ville de Moscou.
Oui, parce que ce que l'on apprend aussi également, Kiev, l'Ukraine plus largement, peut-elle réussir son pari? On parlait de cette campagne de 40 jours, parce qu'elle n'est pas en reste dans ses frappes. On se remémore, c'était il y a quelques semaines, mais Kiev a réussi notamment à toucher des raffineries situées aussi loin que Tiumen en Sibérie, à près de 1900 kilomètres du front. C'est ça aussi la force aujourd'hui de l'Ukraine. Capacité à aller toucher de plus en plus loin en Russie.
La force de l'Ukraine, c'est de produire son propre armement. L'Ukraine produit actuellement 50% de ses besoins militaires. L'Ukraine, cette année, va produire 10 millions de drones. 10 millions de drones militaires.
Hein. Toujours aidés par les Européens.
Bien évidemment.
Américains également ont un peu serré la vis, mais cette aide est indispensable.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Zelensky a souligné hier dans la réunion pour l'Union Européenne, mais aussi pour un certain nombre de parties, y compris par exemple pour la Suède, qui a pris la troisième place dans l'aide à l'Ukraine avec 9 milliards déjà livrés et 4 milliards qui arrivent. L'Allemagne qui occupe la première place avec 11 milliards d'euros de l'aide, et puis la Norvège avec 10 milliards ou 8 milliards. Et l'Ukraine produit ses propres drones. Maintenant, l'Ukraine produit plus de drones. L'Ukraine envoie plus de drones sur la Russie que la Russie. Vous savez, on a dépassé ces seuils, et l'Ukraine déjà a causé de tels dégâts en Russie que 83 régions de Russie maintenant ont des pénuries d'essence.
Et on y vient, Sergueï Zhirinov, vous, l'ex-supérieur officier du KGB, qui avait côtoyé dans son temps Poutine, qui connaissait aussi la philosophie russe, on a vu ces images de la population russe faire durant des heures et des heures, et encore aujourd'hui, hein, faire la queue pour avoir du carburant, cette colère qui monte. On parlera aussi de la colère des militaires. Là aussi, c'est assez inédit dans un pays où la propagande joue un rôle majeur. Poutine peut-il faire face à la colère de sa population quand on voit ce qui est en train de se passer, de ces images qui font le tour du monde?
Poutine, je suis persuadé que Poutine ne changera pas d'avis. Ça veut dire que c'est une personne obtuse. Il était déjà. Je rappelle toujours cette histoire de son entrée à l'école, à l'académie des renseignements militaires, à l'école d'Andropov en 1984. D'ailleurs, on est entré la même année. Et en 1985, on l'a pas retenu pour le service de renseignement à Moscou parce qu'on lui a dit c'est quelqu'un de dangereux qui peut prendre des décisions qui sont dangereuses pour lui. Et pour le service. Et le service de l'espionnage n'a pas voulu de lui, il l'a renvoyé à Leningrad. Et donc Poutine, c'est quelqu'un qui est différent, par exemple, de Trump. Trump, à un moment donné, a décidé d'arrêter sa guerre contre l'Iran, même si on le critiquait, même si on lui a dit il a tout perdu, c'est une paix honteuse, etc.
Sans doute encouragé par son opinion publique aussi, qui commençait, et son propre camp qui commençait à le lâcher. Poutine, vous dites, en l'espèce, est très différent parce qu'il n'est pas sensible à... mouvement de son opinion,
parce que
de sa population.
Son opinion publique actuellement, il y a des sondages. Bon, vous savez, la sociologie en Russie, c'est quelque chose qui est très difficile d'avoir. Mais on dit, il y a plusieurs sources qui l'ont affirmé, que 80% des Russes actuellement ne veulent plus de cette guerre. Cette semaine, il y a une information qui a été publiée. Il y a 133 000 demandes sur le réseau Yandex, sur le moteur de recherche russe Yandex. Quand est-ce que cette guerre va terminer? Et donc, les Russes en ont marre. Mais maintenant que la guerre est venue en Russie, maintenant qu'ils rencontrent les pénuries, eux, avec l'essence. Et l'essence en Russie, c'est quelque chose qui est très important.
Le troisième exportateur mondial. Sergueï Zhirinov, de pétrole, avec des mesures qui ont été prises, du rationnement, l'interdiction d'exporter, et sans doute appel à des pays comme l'Inde pour tenter justement de pallier à ce manque de carburant.
C'est exactement ça.
On l'a vu encore une fois, j'en reviens à ces images qui sont assez folles, qui font le tour du monde. Ouais. Ça vous dites, du point de vue dans la psyché de Vladimir Poutine, aussi, ça n'a aucune espèce d'incidence ?
Non. Ça n'a aucune espèce d'incidence, il suffit de le regarder comment il a fermé, vous savez, dimanche dernier, il a fait 3 apparitions, il a donné une interview à Pavel Zarubin, son correspondant préféré.
Avec des questions toujours très grinçantes, avec beaucoup d'ironie, évidemment. Oui.
Mais vous savez, 6 minutes de cette interview ont été coupées du site du Kremlin.
Parce que
Poutine a dit que il y avait aucun accord à Anchorage avec Donald Trump. Et il y a quelqu'un au Kremlin qui a coupé ça. Mais pour les importations de d'essence, c'est quelque chose d'abominable pour la Russie.
La sémantique de Poutine, j'y reviens.
Ouais.
Reconnaître des problèmes. Oui, nous avons des problèmes. Nous les reconnaissons, nous y répondons. Mais nous assurerons sans aucun doute la sécurité du pays et de nos citoyens, reconnaissant aussi des pénuries. Là aussi, d'un point de vue du vocabulaire, il y a quand même une évolution.
Il y a une évolution. Il y a une évolution parce qu'il ne peut pas, il ne peut plus nier. Parce que toute la Russie est dans les queues pour l'essence. 80 régions sont concernées. Il y a des régions où il n'y en a plus du tout. Les gens commencent à se battre. Bientôt, ils vont commencer à se tirer dessus. Donc, Poutine ne pouvait pas ne pas répondre. Mais en revanche, il a dit rien de critique. Il a dit, Novak, mon vice-premier ministre, il règle ça, tout va bien. Novak a dit, point de pénurie, c'est juste un tout petit peu parce que c'est l'été.
Un épisode parmi tant d'autres. Mais est-ce que vous pensez que la population russe aujourd'hui peut se retourner contre son président, ou on est dans des fantasmes d'occidentaux qui regardons ça finalement avec nos propres lunettes et nos propres fantasmes?
Non, je crois que la population russe surtout ne va pas se retourner parce qu'elle veut la paix et par idéologie. Mais en revanche, les questions de la vie de tous les jours, on a vu ça au Kazakhstan. Mmh. Vous savez, juste avant l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, en janvier 2022. Le 1er janvier 2022, au Kazakhstan, ils ont augmenté le 1er janvier. Hein, vous savez, les gens ont fêté le jour de l'an. Ils se réveillent, ils apprennent que le gouvernement a augmenté de quelques centimes le prix de gaz au Kazakhstan. Ça a donné une révolte au Kazakhstan, révolte armée. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts, il y a eu même des forces armées d'ODKB, c'est cette fameuse organisation poutinienne entre certaines des anciennes républiques soviétiques. Et donc, ça nous montre que pour une question de vie de tous les jours, les gens peuvent se révolter. Mmh. Et donc ça, Poutine est obligé de le savoir.
Ça fait partie du champ des possibles. On parle de la population, j'évoquais aussi son armée. Une vidéo est devenue virale en seulement quelques heures, déjà visionnée des millions de fois. On y voit un ex-soldat russe ayant participé au combat en Ukraine qui alerte le président, qui affirme que l'armée va se retourner et retourner les armes contre le Kremlin face caméra, encore une fois. Là, encore une fois, on est dans l'inédit. Peut-être que jamais des militaires n'avaient osé publiquement prendre la parole comme ça et montrer un nominem son président.
On n'est pas dans l'inédit. Parce que je vous rappelle qu'il y avait Général Ivachov qui, le 31 janvier 2022, 3 semaines avant le début de la guerre, a exhorté Poutine de ne pas le faire.
Mais 4 ans plus tard, là, on a complètement changé.
Cette guerre, actuellement, Poutine est 6 mois plus que Staline a mis dans sa guerre contre Hitler. Mmh. Et Staline était à Berlin, Poutine n'arrive pas à conquérir Donbass. Et donc, bien évidemment, et il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a les critiques dans la société. Et donc, cet appel de ce militaire, d'ailleurs, il n'est pas un rebelle, c'est comme Prigojine. Je vous rappelle, il y a trois ans, jour pour jour, quasiment, Prigojine a fait aussi son putsch.
Après sa marche, en effet, avortée, qui avait fait trembler là aussi le Kremlin. Et vous faites bien de le rappeler, mais juste, beaucoup de Russes, notamment chez les familles de militaires, dénoncent les conditions d'enrôlement de ces jeunes Russes, la plupart du temps, ou pour beaucoup d'entre eux, pas assez formés, les conditions aussi d'exfiltration lorsqu'ils sont blessés. Les autorités du Kremlin sont conscientes des critiques des militaires et donc, je ne sais pas si nos téléspectateurs sont au courant, mais des cahiers de doléances ont été ouverts pour qu'ils puissent alimenter, faire remonter leurs critiques auprès des autorités, mais ces cahiers ont été piratés et certains sont rendus publics. Et là, encore une fois, les critiques en interne sont d'une violence rare. Encore une fois, vous dites, ça Poutine, ça ne peut pas le faire vaciller.
Parce que si vous regardez très très attentivement ces cahiers de doléances, personne ne dit cette guerre, c'est un crime, il faut arrêter cette guerre. Non, ils disent nous sommes prêts à continuer cette guerre, mais il nous faut des conditions, des bonnes conditions pour mener la guerre. Ce militaire, il n'a pas critiqué Poutine, il a pas dit t'es un criminel, mais un blogueur, un autre blogueur l'a dit à sa place. Mais les militaires sont très prudents par rapport à ça. En fait, Lounev, ce Pavel Lounev, déjà, il a changé d'avis. Il a publié, sa femme a publié une intervention hier en disant tout va bien, il soutient notre cher président Vladimir Poutine, etc., etc.
Sans doute a-t-il entre-temps reçu peut-être quelques remontrances, voire menaces.
Mais il a été
ça.
Arrêté. Oui, il a été arrêté pour un jour. Il attend d'ailleurs le jugement. On l'a pas transféré à Moscou. Il a été jugé à Voronej. C'est sa dernière phrase qui est la phrase mortelle, parce qu'il a dit l'armée peut tourner les armes contre Poutine. Ça, la Russie l'a connu. La Russie l'a connu en 1916-1917, ça a donné la révolution d'octobre.
Et de ce point de vue-là, peut-être cette réaction en chaîne de Poutine lui-même sur sa sécurité. Là, encore une fois, vous connaissez ça par cœur. D'ailleurs, j'en permet de revenir sur le bilan à Kiev cette nuit. On est à 13 morts, j'évoquais 9 tout à l'heure. Le bilan augmente au fil des minutes. Juste sur sa conception de la sécurité, c'est l'un des hommes les plus protégés de la planète. On apprend ces dernières heures qu'une partie de ses villas ont été du moins peut-être rasées, en tout cas ont disparu des cartes. Est-ce pour améliorer sa sécurité? En tout cas, on s'interroge. Sur ces yachts également, François Clémenceau l'évoquait sur notre plateau tout à l'heure, qui sont déplacés. C'est quoi? C'est une paranoïa poutinesque où il y a vraiment des risques autour de sa personne lui-même?
C'est la paranoïa, parce que Poutine est paranoïaque, ça c'est prouvé, tous les gens qui le connaissent le disent et le confirment, d'ailleurs ça s'était aggravé pendant la crise de la Covid, mais en même temps effectivement ces yachts, on a parlé de sa campagne, sa prétendue campagne, parce que je vous rappelle quand même que Kabaeva n'est pas mariée avec Poutine est officiellement solitaire, célibataire.
Oui, on ne lui connaît pas de compagne ou d'épouse officielle, c'est ça?
Non. Oui. Non. Mais en revanche, effectivement, il y a deux yachts qui se déplacent en Turquie. Mais je rappelle aussi que la Turquie, c'est un pays de l'OTAN. Mmh. C'est très très intéressant. Qu'est-ce que ces yachts vont faire? Peut-être il y a peut-être des pourparlers. Hein, qui
pays de l'OTAN. L'OTAN à nouveau menacé, ce chiffon rouge à nouveau agité. Là encore une fois par le maître du Kremlin. On est dans la grammaire de la dissuasion uniquement, ou vous pensez là encore une fois qu'il puisse aller plus loin?
À mon avis, il peut aller plus loin parce que là récemment, ce qu'il vient de faire, il a fermé 7 postes frontières avec 3 pays de l'OTAN, c'est-à-dire la Finlande et les 2 pays baltes, Lettonie et l'Estonie. Donc, en réalité, il n'y avait déjà quasiment pas de trafic sur ces postes, mais le fait d'avoir fermé ces postes, le fait d'avoir hier une réunion opérationnelle avec de conseil de sécurité sur les questions de Kaliningrad, vous savez, cette exclave russe qui est une enclave dans l'Union européenne, ça pose beaucoup de questions. Et en fait, la logique est très simple. Poutine considère que les Européens et les Ukrainiens, c'est le même front. Et donc, ouvrir une deuxième brèche quelque part en Europe, ça veut dire que les Européens vont dire ça se passe chez nous, maintenant on ne veut plus donner des armes à l'Ukraine. C'est ça, le calcul de Poutine.
Le calcul et sa stratégie. Et dans le même temps, il le dit, nous sommes prêts, nous attendons, une fois les événements terminés, notamment dans la phase chaude sur le dossier iranien, nous attendons des négociateurs américains. Alors qu'il y a moins de 15 jours, et on sait que Poutine et le président américain se parlent régulièrement, tentant de le... Comment qualifier, en tout cas de nuancer ces attaques contre l'Ukraine, ça n'a aucun effet.
Aucun effet parce que c'est du blabla. Ça, c'est du blabla pour Trump. Zelensky.
Blabla de la diplomatie, non? On peut appeler ça comme ça? Ou ça ne sert vraiment absolument à rien?
C'est du blabla. Parce que Poutine, vous savez, il ne veut pas négocier avec Zelensky. Zelensky, depuis 2 mois, propose des pourparlers à plusieurs reprises. À chaque fois, quand il peut, il propose des pourparlers. Et il propose d'arrêter la guerre. Poutine ne veut pas ça. Et Poutine veut négocier avec Trump. Et non pas avec l'Ukraine.
Directement, en effet. Ouais. Et on verra si un jour cela arrive. Dernière question très rapide. On a appris hier les dates de l'élection présidentielle française de 2027. Elles se tiendront le 18 et le 2 mai prochain. La crainte des ingérences étrangères, plus précisément russes. On sait que la Russie a œuvré par le passé. Est-ce que vous pensez que ça fait partie aussi de la stratégie de Poutine d'influer sur ces élections et ce scrutin?
Je le pense parce que ça a eu déjà lieu. Donc la dernière élection, tout le monde reconnaît ça. On a des doutes sur l'élection américaine, mais sur l'élection française, on n'a pas de doute.
Sergueï Girnov, merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 et vous êtes toujours bien sûr BFM TV et RMC.
Et à 8h47, merci Marie Chantrey. On va passer au Mondial de Virginie dans un instant avec ces Français qui disent pardon Kylian. Ils ont critiqué Mbappé avant le Mondial et ils s'en mordent les doigts. Et puis on va s'intéresser à ces Français qui réfléchissent à changer de destination de vacances, voire même à déménager en cause des fortes chaleurs. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC et bien seulement sur RMC. On est à la radio ensemble, j'allais dire, et RMC Story. Pardonnez-moi. Le Mondial de Virginie, c'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec toutes les dernières infos sur le Mondial, bien sûr. Mais avant cela, le choix de la rédaction, Marion Gauthier, reporter RMC. Bonjour Marion. Bonjour. On s'attend à de nouvelles chaleurs à partir de ce week-end, ça on vous l'a dit. Et avec cette nouvelle canicule, certains adaptent déjà leur plan de vacances.
Oui, ce qu'ils peuvent, en tout cas sur le site de réservation booking.com, la part des recherches de logements avec climatisation a triplé. Avec piscine extérieure, c'est plus 85% depuis la semaine dernière. Les destinations changent aussi. Les recherches pour Dieppe et Trouville-sur-Mer ont plus que doublé. Même si, on le rappelle, la canicule a aussi touché la Bretagne. Christelle estime qu'elle y prend moins de risques que dans le sud-ouest où elle comptait partir en août. La quinquagénaire éprouvée par les chaleurs de ce début d'été.
J'ai vraiment le sentiment d'étouffer. Je marchais le soir tard, mais il y a eu des soirs où c'était même pas possible de marcher, tellement à 22h, on avait l'impression d'être dans une cocotte minute. J'ai dit non, c'est pas possible, je prends la Bretagne. Déjà, on sera en bordure d'eau, l'air est plus rafraîchissant. Je supporterai pas d'être en bas, quoi.
Les réservations dans ces régions refuges sont souvent moins chères. Christelle y gagne au change. 1000 euros pour 15 jours dans un appartement breton contre plus de 1500 plus bas, dit-elle, dans le sud-ouest.
Mais alors, si plus de Français vont vers le nord, c'est qu'il y aura moins de monde dans le sud?
C'est plutôt que les réservations dans le sud progressent moins vite. Le littoral reste une destination privilégiée. Un peu plus d'inquiétude, en revanche, dans les terres, en Dordogne. David Ross y est responsable de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration.
Pour le moment, les réservations, on a des taux d'occupation qui sont environ en baisse de 5%. Après, on a pas mal de réservations qui arrivent un peu en dernière minute. Ça va être très conjoncturel, ça va être en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Et forcément, ils regardent aussi par rapport au climat. On sait qu'il y a des touristes qui vont privilégier des destinations un petit peu plus fraîches. Ça va pas en s'améliorant, hein.
Alors Marion, s'adapter à la chaleur, ça va même plus loin que simplement changer sa destination de vacances.
Oui, c'est adapter son logement, voire en changer, déménager après des nuits à se réveiller toutes les heures, à se doucher trois fois, après des jours à 34 degrés dans son appartement du centre-ville de Nantes. Caroline a cherché une nouvelle location.
Et on a trouvé en une semaine. Pas d'exposition sud, pas de grandes baies vitrées, alors que c'est vrai qu'avant, c'était un peu un des critères de recherche. L'étage, en effet, parce que là, on est au dernier, donc sous les combles, que là, on va être au deuxième étage sur 9, il me semble. On n'emménage que dans un mois, donc on appréhende quand même un petit peu la nouvelle vague qui va arriver. On a juste trop hâte et on a l'impression que ça va un peu changer notre vie.
Voilà, le climat qui pèse de plus en plus sur les décisions. Dans une étude Orpi, 77% des répondants disent prendre en compte le risque climatique avant d'acheter un bien immobilier. C'est 80% dans le sud-est ou dans les villes littorales exposées au risque de submersion, oui, par exemple.
Alors après, les changements de région, ça va prendre du temps.
Oui, oui, c'est ce que m'explique la présidente de PAP particulier. Pour elle, c'est la génération des 50-60 ans qui va être déterminante, ceux qui réfléchissent au lieu de leur retraite.
On doit se projeter longtemps en avance. Là, pour le coup, on sait que les canicules vont empirer. Et c'est vrai qu'historiquement, il y en a énormément qui allaient passer leur retraite sur la Côte d'Azur. Il est possible que là, la génération qui a actuellement 50 à 60 ans fasse un choix différent. Ils se disent, quand je serai retraité, en plus je serai potentiellement âgé, donc sensible à la chaleur. Et donc la Côte d'Azur, ça va poser problème. Et peut-être qu'ils feront une partie d'entre eux plus importante qu'avant, choisira des régions plus tempérées.
Et pour le moment, le sud est plus exposé, mais aussi mieux équipé pour résister aux fortes chaleurs.
Évidemment. Merci Marion Gauthier, reporter RMC. On connaît trois nouveaux huitièmes de finalistes de la Coupe du Monde depuis hier soir, l'Angleterre, la Belgique et les États-Unis.
RMC, le Mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Le journal de la Coupe du Monde ce matin avec vous. L'équipe de France de retour au sommet.
Alors je ne parle pas des matchs de fou et de la magie que les Bleus nous offrent depuis le début de cette Coupe du Monde, mais de quelque chose de beaucoup plus prosaïque, le classement FIFA.
Ah.
Ah mais là ça va être difficile, Tina, on peut pas, l'équipe de France est à nouveau première depuis hier devant l'Argentine et toc c'est toujours ça de prix.
Ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde font leur mea culpa.
Pardon Kylian, c'est même le nom d'un site créé par Frédéric Kopp qui s'en voulait trop quand Kylian Mbappé a marqué son premier but lors du premier match contre le Sénégal.
Je me suis dit mais pardon Kylian quoi, pardon quoi. Et je me suis dit, mais je suis sûr que je suis pas le seul, il faut qu'on s'excuse tous.
Alors, il a créé le site Pardon Kylian. Je vous raconte un peu, il y a un QCM qui s'appelle Mon acte de contrition et puis tu coches des cases, plus tu en coches, plus ta honte grandit. Par exemple, j'ai dit que Kylian devait être sur le banc ou j'ai dit que Kylian nous ferait perdre. Et puis ensuite, on appose sa signature sous le texte suivant. Moi, citoyen, citoyenne de la République, je reconnais avoir douté de Kylian Mbappé, fleuron de notre nation, génie du ballon rond. Bref, on lui présente nos excuses. Enfin, je dis nous, c'est pas vrai, pas moi.
Non, pas vous, pas moi, mais on a des noms. Les Suédois ne s'excusent pas d'avoir perdu contre les Bleus, mais alors ils sont assez mauvais perdants.
Vous savez pourquoi la Suède a perdu contre l'équipe de France ?
Bah, on vient d'en parler, Mbappé et tout ça.
Ah non, c'est pas du tout ça, c'est à cause de l'arbitrage.
Ah. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop.
C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas photo pourtant entre les deux équipes. En tout cas, plusieurs joueurs se sont plaints en disant que l'arbitre sifflait plus contre la Suède que contre la France à cause de son statut de favorite. Bon, elle est parfois sous le coup de la déception, on dit des choses qu'on pense pas vraiment, c'est bon, c'est pas grave.
Allez, même la NASA supporte l'équipe américaine.
Eh oui, l'agence spatiale, des arguments imparables. Si jamais Team USA remporte la Coupe du Monde, elle enverra un ballon de foot sur la Lune. Si ça ne motive pas les joueurs américains, ça. Sachant que la NASA a déjà envoyé un ballon dans l'agence spatiale internationale à l'occasion de cette Coupe du Monde. On veut finir par organiser une Coupe de l'Univers avec une équipe qui représente la planète Terre. Honnêtement, pour la ligne d'attaque, si on joue contre des aliens, on prend la ligne de l'équipe de France et c'est bon, non ?
Ouais, après, il va falloir leur expliquer là, le hors-jeu dans ces dimensions-là. Aux Américains, ça va être compliqué. Alors, les sites de rencontres marchent très, très bien pendant cette Coupe du Monde. Ah bon ?
Je vous propose, si votre moitié est partie assister à la Coupe du Monde sans vous, vous vous éloignez un peu de votre radio. Tinder, par exemple, a 15% d'utilisateurs en plus depuis le début de la compétition, 25% de swipes supplémentaires, 60% de matchs en plus aux États-Unis. Je parle pas des matchs de foot, hein. Si ça peut vous rassurer, les plus actifs sur les sites sont les supporters qui viennent de Grande-Bretagne, très étonnant ça, du Brésil et de Thaïlande, pas de France. Et puis, je vous rassure aussi, si vous criez « je t'aime » à Kylian Mbappé quand il marque un but, ça compte pas, ça c'est autorisé.
Je lui dirai les mots bleus.
Ah oui, on l'aime Kylian.
Bah oui, on l'a, on a le droit de lui dire.
Merci Virginie Fulpa, la suite des 16e de finale à suivre sur RMC, notamment ce Suisse-Algérie à 5h demain matin en direct dans le Morning RMC. On va vous le faire vivre, vous ne manquerez rien, vous vous branchez dès 5h sur RMC, n'hésitez pas. Dans un instant les GG, quel est le programme mon cher Alain Marchal ?
Eh bien, nous reviendrons sur la tragédie du chat Gina, le chat du journaliste Olivier Bin Kimoun, qui s'est retrouvé sur les voies et qui a été décapité par un train. On reparlera de ça, de la terreur du canal Saint-Martin, Hamza, que les policiers sont finalement venus interpeller et il a été placé en garde à vue. Franchement, est-ce que ça le mérite? Arnaud Montebourg sur le podcast de notre chroniqueuse GG Flora Guebali. Arnaud Montebourg qui dit Jean-Luc Mélenchon est un fou furieux, il faut l'arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Laurent Wauquiez qui trahit Bruno Retailleau pour aller vers Édouard Philippe. Et puis les émeutes chez Lidl pour acheter, devinez quoi ? Des ventilateurs, des climatiseurs, des rafraîchisseurs d'air. Bravo Lidl, mais franchement, est-ce que c'est pas un peu la honte de se battre pour acheter un climatiseur ? 32-16 pour venir discuter de tout ça avec les grandes gueules.